mercredi 8 novembre 2023. Bonsoir et bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Je suis Rafika Taher au micro. À la une, le mouvement Afrique sans frontières a invité toute la population de Niamey à un sit-in devant la représentation de la CEDEAO au Niger. Objectif, la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Certaines populations du département de Téra se sont réfugiées dans la ville de Téra. Un comité a été mis en place pour sensibiliser les populations hôtes en vue d'une cohabitation pacifique. Les détails dans ce journal. Et la partie magazine de cette édition va porter sur la situation de la sécurité fluviale avec la fermeture des frontières avec certains pays voisins depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger. Aujourd'hui, 8 novembre 2023, le mouvement Afrique sans frontières a organisé un sit-in devant la représentation de la CEDEAO au Niger. Le but de cette manifestation est la levée des sanctions infligées par la CEDEAO au Niger suite aux événements du 26 juillet 2023. À noter que ce sit-in est prévu dans les autres capitales des pays membres de la CEDEAO. Plus de détails avec un extrait de ce plaidoyer lu par Maître Abdrahman Lirwana, président du MASAF, recueilli par nos confrères de la télévision Labari.
Comme vous le voyez ici présent, il n'y a que les ressortissants de l'ensemble des pays de la CEDEAO réunis comme un seul homme pour exiger la levée immédiate et sans condition de ces sanctions. La CEDEAO, créée en 1975, avait pour objectif l'intégration économique des pays membres et la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace. Aujourd'hui, 48 ans après sa création, la CEDEAO est au bord de l'implosion à cause de ses dernières décisions des chefs d'État plutôt dictées par un agenda extérieur à la CEDEAO. Contre toute attente, la CEDEAO inflige des sanctions illégales, démesurées et inhumaines contre le peuple nigérien, non responsable et non coupable de ce coup d'État.
C'était des propos recueillis par nos confrères de la radio-télévision Labari. Lors du 48e anniversaire de la Marche Verte, une fête nationale marocaine célébrée le 7 novembre 2023, le roi Mohamed VI a réaffirmé la disponibilité de ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour les États du Sahel afin de favoriser l'accès à l'océan Atlantique. Il a déclaré que Maroc cerne bien les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Et pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confronter les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter au réseau de transport et de communication implanté dans leur environ régional, a proposé le roi Mohamed VI, garantissant la disponibilité du Maroc. C'est ce que rapporte l'agence nigérienne de presse dans un article publié hier. Pour cause d'insécurité, certaines populations dans le département de Téra quittent leur localité pour se réfugier dans d'autres villages, notamment dans la ville de Téra. Et pour une bonne cohabitation entre les autochtones et ces personnes déplacées, un comité a été mis en place pour sensibiliser la population hôte. C'est ce qu'explique l'Ame Téra, Mariama Diallo, leader des femmes des éleveurs. Elle est interrogée par Omar Hama.
Les déplacés et nous cohabitons ensemble comme une seule famille, sans problème, car nous savons bien qu'ils ont été obligés de quitter leur habitation. Partout où nous allons, on s'entretient avec le chef du quartier pour qu'il nous facilite l'accès aux déplacés pour les sensibiliser. Et ce, afin que les uns et les autres comprennent le mieux vivre ensemble et surtout à inscrire leurs enfants dans les écoles. Certains ont compris, ils l'ont fait. S'il y a des cérémonies de baptême ou des décès, pour ceux qui n'ont pas d'habitation, notre association leur vient en aide, si toutefois la personne est membre. Et même au centre de santé, nous les aidons par exemple en donnant du sang si besoin est, et pour inhumer les morts aussi.
Dès le département de Baléyara, cette année, les enfants des déplacés de la commune de Tagazar fréquentent normalement les écoles. En effet, selon un directeur d'établissement scolaire, c'est le résultat des stratégies mises en place par les autorités qui ont conduit à ce résultat. Écoutons les explications de Ayouba Kimba, directeur de l'école Route Windita, au micro de Hassan Moumouni.
Il y a eu la rentrée des classes le 2 octobre passé et les élèves viennent. Les cours se déroulent normalement pour les enfants des autochtones comme pour les déplacés qui étudient ensemble dans les mêmes classes. Nous n'avons pas séparé les enfants autochtones et les déplacés. Ils sont ensemble chacun en fonction de son niveau du CI au CM2. Ils ne rencontrent aucun problème que nous avons pris les mesures nécessaires pour qu'ils se sentent à l'aise avec leurs camarades de classe. Et surtout qu'ils ne se considèrent pas comme mis à l'écart. Nous avions 123 élèves de déplacés l'année dernière. En juillet, nous avons mené une enquête pour chercher parmi les enfants des déplacés de 4 à 13 ans ceux qui sont scolarisés et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, nous devons avoir 117 inscrits dans cette école. Et Dieu merci, ils viennent et sont assidus. Ils ont une cantine pour manger la mi-journée. Après le repas, certains d'entre eux restent ici, d'autres vont à la maison pour revenir l'après-midi. Et c'est parmi ces derniers que nous avons quelques retardataires. Mais une fois interpellés, ils viennent à l'heure.
La scolarisation de la jeune fille évolue dans certains villages de la région de Diffa avec la sensibilisation des associations des femmes selon la responsable de la scolarisation de la jeune fille. Cependant, jusqu'à présent, certains parents refusent de laisser leur fille poursuivre le cursus au collège à cause du problème de tuteur notamment. Les détails avec Binta Madou de la SCOFI au micro de Guidi Abdraman.
Dieu merci, il y a beaucoup d'avancées sur la scolarisation de la jeune fille. Certes, il y a des endroits par-ci, par-là, où les jeunes n'ont pas encore compris l'importance de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école. C'est au niveau du cycle primaire que les problèmes persistent, surtout pour les jeunes filles qui vont au collège. La difficulté, c'est le manque de familles d'accueil. Le sondage que nous avons effectué cette année montre que plus de 50% des effectifs sont des filles. Rares sont les villages qui ont 22% ou 30% des filles non scolarisées. Nous avons entendu des échos sur l'ouverture prochaine des internats pour les jeunes filles à l'intérieur du pays. C'est une bonne initiative. Vivement la concrétisation de ce projet. Ça sera un ouf de soulagement face aux difficultés que nous rencontrons.
La région d'Agadez fait face à une insuffisance d'enseignants dans les établissements secondaires. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Antenne d'Agadez, explique les raisons de ce gap d'enseignants, notamment pour les matières scientifiques. Écoutons le cri de cœur de Kabirouk Ibra, secrétaire général du SNEN Agadez, au micro de Moussa Mman.
Effectivement, il y a un grand nombre d'enseignants qui ont été affectés. Très malheureusement, on a amené peu. Si vous partez dans les établissements secondaires, vous allez voir un manque crucial des enseignants des matières scientifiques. Donc, même au niveau du primaire, on rencontre ces gaps. Les conséquences, vous allez partir au niveau du secondaire, là, par exemple. Vous allez voir une classe qui devrait avoir, par exemple, 8 heures d'une discipline scientifique. Elle va se retrouver avec 3 heures ou bien 4. Donc le temps scolaire sera tellement affecté. Donc les programmes, les enfants ne peuvent pas l'atteindre comme ils veulent. Le cri de cœur que j'ai, c'est à l'endroit des autorités administratives et à l'endroit aussi des camarades qu'on affecte des fois qui ne viennent pas. Donc j'ai pris ces camarades, dès qu'il y a affectation, de venir joindre leur lieu de service et aussi à l'administration scolaire, de faire tout son possible pour qu'il y ait des enseignants au niveau de la région ou bien au niveau de la commune, même si possible.
Seulement 30% des boutiques du marché de Tawa nouvellement construites sont occupées en ce moment, a déclaré l'administrateur délégué du marché. Ouvert depuis le 15 septembre 2023, le marché central de Tawa peine à bien fonctionner. Bien que les magasins soient attribués, les locataires tardent à s'installer. Des précisions avec Cheibou Ali au micro de notre envoyé spécial Nafis Adam.
Nous sommes aujourd'hui à 30% d'occupation des boutiques attribuées. Le comité de mise en œuvre de ce marché s'est déplacé sur les sites du stade, de la tribune officielle de Tawa, l'OPVN de Tawa, pour que ce commerçant regagne le marché. Mais ils n'ont pas pu respecter ces délais. Il y avait eu un premier délai, un deuxième délai et le dernier délai, le troisième, a aussi aujourd'hui 21 jours d'expiration. Nous envisageons un conseil de comité dans cette semaine-là Donc on attend la suite du mot du gouverneur. Et nous, au niveau de l'administration, c'est dit dans le contrat de bail, c'est 60 jours d'inactivité. Nous reprenons la boutique, puisque nous ne donnons pas des boutiques pour fermer. S'il y a des gens qui sont là, sous le soleil, en tant qu'étalaires, et qui n'ont pas de boutique, nous, on va les attribuer.
Trois grands projets, à savoir technologie agricole intelligente face au changement climatique, recherche et développement pour la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique, B-Best pour la promotion de la chaîne alimentaire volaille-poisson, ont partagé hier à Niamey les résultats qu'ils ont enregistrés sur le terrain en présence des acteurs du développement rural. Quelques détails sur ces technologies intelligentes avec Madame Aïchatou Lawali, responsable des opérations terrain au micro de Alignali.
Pour le RedSact, ces technologies sont vues de différents angles selon que vous êtes en train de faire la production pluviale. Vous avez la production irriguée, la production animale ou que vous faites l'intégration même de toutes ces technologies et aussi dans le sens d'organiser les producteurs et aussi l'amélioration de la nutrition au niveau des ménages. Avec les changements climatiques, les producteurs font face beaucoup aux attaques des ennemis de culture. Donc nous, ce que nous recommandons beaucoup, c'est vraiment l'utilisation des biopesticides qui sont moins coûteux et à la portée du petit producteur. Pour ce qui est de la production animale, nous avons l'amélioration de l'agriculture familiale. Nous avons aussi la production de blocs multinutritionnels. Nous avons aussi la production, au-delà de juste récolter le fourrage, on est en train de former les producteurs à la production même de que ce soit la diolique et autres qu'on est en train de les former pour pouvoir eux-mêmes produire.
À Gaïa, le fleuve est devenu la principale voie de traversée pour les populations depuis la fermeture des frontières terrestres du Niger avec les pays de la CEDEAO. Et cette situation, exacerbée par la menace d'une intervention militaire, a entraîné le déploiement des forces armées nigériennes dans le département pour la sécurisation de la zone. Le préfet de Gaïa, le capitaine Bourayma Seyni, revient sur ces défis sécuritaires dans un entretien avec Fadel Alou en magazine.
Qui dit transport fluvial, parce que la frontière c'est le fleuve, il est difficile, très difficile de tout contrôler. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette frontière soit au moins contrôlée. Parce que nous craignons que l'ennemi aussi s'infiltre. C'est pourquoi nous avons pris toutes les mesures. Il y a des postes de gendarmerie fluviale, il y a la brigade des douanes fluviales, il y a la police pour effectivement avoir l'œil sur ce qui se passe 24 heures sur 24.
Avec la menace d'intervention militaire au Niger, les forces armées nigériennes ont été déployées à Gaïa. Comment est-ce que la population a accueilli ces forces armées nigériennes?
Si nos voisins de la CEDEAO ont décidé de nous combattre, c'est tout à fait normal que nous ayons un déploiement de l'armée nigérienne qui est là, pas seulement à Gaïa, mais dans toute la zone. Vous avez remarqué que tout marche très bien, la vie est comme s'il n'y avait pas de menace. C'est parce que la population a vu ce déploiement. Et nous sommes prêts à nous défendre contre toute menace, d'où qu'elle vienne. Qu'elle soit terrestre, fluviale ou aérienne, nous avons obligation de protéger notre population et on va la protéger, quel que soit le prix. Tant que la CEDEAO ne sort pas pour dire que nous avons levé la menace d'intervention, nous sommes toujours prêts et on attend.
Comment appréciez-vous la résilience de la population du Dendi malgré ces sanctions de la CEDEAO?
Les Nigériens ont compris que c'est une question de souveraineté. Vous savez, Gaïa peut nourrir tout le Niger. Donc, ils se sont mis au travail. Maintenant, ils ont fini la récolte, commencent les cultures de contre-saison pour que, justement, on puisse s'autosuffire. Ce n'est plus une sécurité alimentaire, c'est une autosuffisance alimentaire.
On sait que Gaïa est une zone où la drogue circule beaucoup. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir le cap sur le fleuve pour que ces produits n'entrent plus au Niger?
Depuis que j'ai pris fonction, j'ai maintenu la pression sur les débarcadères. J'ai intervenu personnellement. C'est moi qui conduisais les opérations, ce qui a fait qu'on a eu des véhicules. Et voyez-vous, si nous sommes menacés et que des gens se permettent de mettre des véhicules sur des pirogues et traverser, qui dit que nos ennemis ne feront pas autant? C'est pourquoi nous avons tiré des leçons et maintenant on a fait des déploiements sans nous faire remarquer, matin, nuit et jour.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place aux éditions en langue nationale.